aujourd'hui à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 26 juin 2018. Des experts de l'ONU accusent les milices et les forces de sécurité congolaises de crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Kasaï. Au Cameroun, 47 séparatistes anglophones ont pu rencontrer leurs avocats après 6 mois de détention. Poursuite des discussions à Khartoum entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. La Cour suprême des États-Unis a validé le décret anti-immigration de Donald Trump. Et nous reviendrons bien sûr sur le Mondial 2018. Le Pérou, déjà éliminé, a anéanti les dernières chances de qualification de l'Australie 2-0. Et la France est en tête du groupe C après un nul face au Danemark 0-0 qui valide sa qualification. Des experts de l'ONU ayant enquêté sur les atrocités commises depuis 2016 au Kasaï en RDC ont accusé les forces de sécurité et les milices de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est urgent de mettre en place une politique de désarmement des milices et un processus de réconciliation afin d'éviter une nouvelle vague de violence, ont-ils recommandé, tout en déplorant un très sérieux problème d'impunité. En République démocratique du Congo, le procès de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, doit s'ouvrir demain à Kinshasa devant la Cour suprême. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le point avec Idriss Fall.
Moïse Katumbi et ses 6 co-accusés, dont un Américain, sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. D'après son avocat, Maître Mumba Gama, le procès doit commencer demain devant la Cour suprême. Ex-gouverneur du Katanga, en exil depuis mai 2016, M. Katumbi a été accusé d'avoir recruté et armé des mercenaires après son divorce politique avec la majorité présidentielle. Ce procès ne sera qu'une honte pour la plus haute autorité de l'État, écrivent 52 députés et sénateurs pro-Katumbi dans une lettre au président Kabila. Déjà condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière, M. Katumbi ne peut revenir en RDC sans être inquiété par la justice, a dit récemment le ministre des Affaires étrangères. M. Katumbi a pour la énième fois annoncé son retour. Cette fois-ci entre le 24 juillet et le 8 août, les dates du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle.
Des milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition pendant la saison sèche au Kasaï en RDC. Se sont alarmés les évêques congolais, appelant une intervention rapide et massive. Si les enfants ne sont pas assistés maintenant, on risque d'avoir des morts par milliers, a déclaré l'archevêque de Kananga, Marcel Madila. Après 6 mois de détention, 47 séparatistes anglophones ont pu rencontrer des avocats commis pour leur défense. Les précisions avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Deux avocats du cabinet Mouna et associés ont pu établir un premier contact avec les 47 personnes extradées du Nigeria depuis le 26 janvier dernier. VOA Afrique a appris ce mardi que c'est dans l'enceinte du secrétariat d'État à la Défense, un site hautement sécurisé à Yaoundé, que les avocats ont été autorisés à rencontrer les leaders sécessionnistes. De sources judiciaires, ce premier contact annonce l'ouverture d'un procès au tribunal militaire de Yaoundé qui juge les accusations de terrorisme. Cependant, certains leaders sécessionnistes pourraient bénéficier d'un non-lieu dès la fin de l'information judiciaire, a confié sous anonymat un avocat à VOA Afrique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Poursuite des discussions à Khartoum entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar. Les détails avec Raissa Girondin.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar sont parvenus à un accord sur certains points dans les pourparlers de paix. Il a déclaré que ces points seront annoncés demain. L'agence Reuters rapporte que Riek Machar a demandé 48 heures supplémentaires avant de signer tout projet d'accord. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
Une délégation gouvernementale érythréenne est actuellement à Addis Abeba pour une visite historique destinée à mettre fin à des décennies d'hostilité entre les deux voisins. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Ousmane Saleh et Yemane Gebreab, conseiller spécial du président éthiopien Isaias Afewerki, ont été accueillis par le premier ministre Abiy Ahmed et des responsabilités comme le légendaire coureur Haïlé Gebrselassie. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés à une guerre qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000 en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. Le refus éthiopien d'appliquer une décision d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a entretenu l'animosité entre les deux pays. En juin 2016, suite à un accrochage entre les deux armées, les Érythréens ont affirmé avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens. L'Éthiopie avait alors rappelé à son voisin qu'elle avait la capacité de mener une guerre totale. La décision de M. Abiy de tourner la page de ce conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Cependant, elle a été accueillie avec une défiance par les habitants de la ville symbole de Badme, accordée à l'Érythrée en 2002. L'Éthiopie n'a pas indiqué quand ses troupes quitteront cette localité, dont les habitants craignent de se retrouver sous la coupe de leur ancien ennemi.
En Côte d'Ivoire, l'ex-député du PDCI, Basile Gouali, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020, affirmant être le porte-étendard d'une réconciliation qui, selon lui, a échoué. Toujours membre de ce parti de la coalition au pouvoir, M. Gouali se présente en tant qu'indépendant. Les prisonniers et les exilés de la crise post-électorale sont à 90% originaires de l'Ouest. La réconciliation nationale doit partir de cette zone, a-t-il souligné. Le gouvernement libyen d'Union nationale a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à bloquer toute tentative de vente illégale de pétrole par les autorités rivales de l'Est du pays. Lundi, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé que toutes les installations sous contrôle de ses forces seraient remises à la compagnie pétrolière du gouvernement parallèle basée dans l'Est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un cargo danois transportant 108 migrants secouru vendredi au large de la Libye a été autorisé à accoster en Sicile, mais l'incertitude régnait toujours sur le sort de 234 autres migrants à bord du Lifeline. Affrété par l'ONG allemande du même nom, ce navire reste bloqué en mer. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, ayant confirmé lundi sa ligne dure à l'encontre des ONG venant en aide aux migrants. La Cour suprême des États-Unis a validé le décret anti-immigration de Donald Trump, offrant une victoire définitive au président américain à l'issue d'une âpre bataille judiciaire autour de cette mesure controversée. La décision prise à la majorité de 5 juges contre 4 entérine ce décret qui interdit le territoire américain de façon permanente aux ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a été reçu ce mardi à Rome par le premier ministre italien Giuseppe Conte et la ministre de la Défense, Elisabetta Trenta. Madame Trenta a indiqué avoir discuté des principaux dossiers internationaux comme la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, le Niger et le Liban. Les deux interlocuteurs ont confirmé l'engagement commun dans la lutte pour la sécurité internationale. Monsieur Conte a laissé présager sur Twitter un prochain déplacement aux États-Unis pour rencontrer le président américain. Et l'armée syrienne a lancé une offensive contre les secteurs rebelles dans Deraa, selon l'agence Sana, alors que le pouvoir de Bachar al-Assad est déterminé à reconquérir les territoires insurgés du sud du pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, le Mondial 2018 en Russie avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Aucun suspense et un match ennuyeux. Voilà le scénario de ce match France-Danemark 0-0 dans le groupe C entre les deux équipes qui se qualifient pour les huitièmes de finale après la défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. La Croatie, indéboulonnable leader du groupe D, affronte dans quelques minutes le Danemark. Affrontera le Danemark en huitième de finale. Les Croates, leader du groupe D, affrontent dans quelques minutes la valeureuse équipe d'Islande. La Croatie se présentera sans Rakitic et plusieurs quatre qui étaient sous la menace d'une suspension, mais avec le meneur de jeu Luka Modric. Au total, ce sont 9 joueurs croates qui sont changés par rapport à l'équipe qui a battu l'Argentine 3-0. La France, elle, ne connaît pas encore son adversaire. Il s'agira du vainqueur du match Nigeria-Argentine qui débute à 18h temps universel. Lionel Messi sera comme prévu aligné avec Gonzalo Higuain en attaque de l'Argentine. Côté Nigeria, Gernot a reconduit Moussa en attaque, auteur d'un doublé contre l'Islande, souvenez-vous. Un match à suspense hier soir dans le groupe B. Il a beaucoup été question d'assistance vidéo à l'arbitrage. Le Maroc a réalisé son meilleur match et aurait mérité mieux qu'un match nul de partout face à l'Espagne. À Kaliningrad, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont ouvert le score sur une grosse erreur de la défense espagnole, offrant une chance à Khalid Boutaïb de marquer le but. Puis Isco égalise dans la foulée sur une magnifique passe d'Iniesta. Au retour des vestiaires, l'Espagne domine, mais ce sont bien les Marocains qui prennent le devant grâce à un but sur corner d'En-Nesyri. Hélas, le Maroc ne parvient pas à garder cette avantage et c'est Aspas qui remet les deux équipes à égalité. On va écouter Mehdi Benatia, le joueur marocain qui s'est exprimé après la rencontre.
Comme le reste de la Coupe du Monde, on a vu une grande équipe, on a vu un grand pays, on a vu beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit au début, les Marocains peuvent être fiers de cette équipe. Nous, en tout cas, on est fiers de nos fans, de nos supporters. Ils étaient encore une fois, on était à domicile ici. Mais voilà, j'ai pas envie de faire trop de polémiques, on n'a pas envie de... C'est une belle compétition, il faut la respecter. Malheureusement, je pense que notre pays n'a pas été respecté à sa juste valeur durant cette compétition. Et c'est un peu frustrant. Après, l'équipe d'Espagne, elle a des grands champions, on leur souhaite le meilleur, mais ça a été pareil un peu durant toute la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on méritait mieux et qu'on n'a pas été très juste avec nous, surtout contre le Portugal. Mais c'est comme ça, il faut positiver et on leur souhaite bonne chance aux équipes qui restent. Et nous, maintenant, il va falloir rester sur la continuité avec ce groupe de qualité, avec un très grand entraîneur, un très très grand entraîneur comme Hervé Renard qui a su depuis le début nous faire qu'on se transcende pour lui. Et chaque joueur aujourd'hui était content de jouer pour lui. C'est vraiment l'homme fort. Donc voilà, c'est lui aussi qu'il faut remercier. Et puis voilà.
Mehdi Benatia, joueur marocain. L'Espagne termine première du groupe après le match nul, un but partout du Portugal face à l'Iran. Là aussi, il a beaucoup été question de vidéo. Cristiano Ronaldo a raté un pénalty, mais score final, un but partout entre les deux équipes. À suivre dans le groupe E, le Brésil de Neymar et Coutinho face à la Serbie pour une finale à suspense. La Suisse est bien placée pour se qualifier en cas de victoire demain contre le Costa Rica déjà éliminé. Dans le groupe F, le Mexique a besoin d'un nul contre la Suède pour terminer premier du groupe. Les Suédois doivent impérativement l'emporter. Quant aux champions du monde allemand, ils affrontent la Corée du Sud pour éviter une élimination historique. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonsoir. Qui ne se souvient de la célèbre boutade de Gary Lineker? Le buteur anglais des années 80-90. Le football est un sport qui se joue en 11 et où l'Allemagne finit toujours par gagner. En fait, la vedette britannique rendait hommage à justice à l'opiniâtreté, à la force mentale d'une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Cette boutade, une nouvelle fois prémonitoire, a repris tout son relief au lendemain de la victoire miraculeuse de l'Allemagne dans le match de la Suisse samedi contre la Suède. Et quand l'Allemagne gagne sur le fil, généralement, elles montent en puissance et réajustent le tir. Or, les Allemands savent maintenant que seule une victoire de 2 buts d'écart peut garantir à l'absolu une qualification. La possibilité de se retrouver avec 3 équipes à 6 points n'étant pas à écarter, au cas où la Suède venait à gagner contre le Mexique. Pour toutes ces raisons, Le troisième match contre la Corée sera donc pris très au sérieux par une équipe jamais aussi efficace et concentrée que lorsque l'objectif est aussi clair. Pourtant, ce match Allemagne-Corée du Sud ressemble à s'y méprendre au match piège tant redouté. Tout d'abord, dans une opposition de style parfaite, les Asiatiques ont à démontrer leur vivacité habituelle et leur tendance à bien finir les rencontres. Par ailleurs, l'axe défensif allemand, la véritable rampe de lancement de ses orientations offensives, vient de perdre son patron Bautin, suspendu après l'absence pour blessure de son acolyte Hummels, si utile aussi dans le jeu aérien. Et si l'histoire de David et de Goliath se répétait une fois de plus, réponse ce mercredi au magnifique stade de Kazan. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Ouverture ce mardi au Tchad du procès de l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental et de ses complices dans l'affaire de tentative d'assassinat de maître Doumra Manassé et ses clients qui avaient été relaxés par la justice de Doba. Le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
L'ouverture de ce procès offre déjà un spectacle inhabituel dans les locaux du palais de justice de N'Djamena ce vendredi. Au lieu de la fourgonnette, c'est plutôt une ambulance médicalisée qui fait son entrée au palais de justice aux environs de 9h20, heure locale, suivie d'une voiture de marque V8 aux vitres fumées escortée par les gendarmes. À la surprise de tous, ce ne sont pas les malades qui se trouvent dans l'ambulance, mais plutôt les quatre prévenus qui descendent du véhicule et se dirigent vers la salle d'audience. 10 minutes plus tard, le célèbre prévenu Adam Nuki Sharfadine descend de sa voiture V8 privée, tout souriant, salue avec mépris le public et les avocats plaidant dans cette affaire et suit ses co-détenus à pas feutré, poursuivis pour destruction des biens, rébellion, détention arbitraire, outrage aux magistrats et atteinte à la liberté. Tous les 5 prévenus ont plaidé non coupables. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile et ceux de la défense ont soulevé plusieurs exceptions pour dénoncer l'incompétence du tribunal allant des vices de procédure à la requalification des faits. Acculé, le président du tribunal suspend l'audience pour 2 heures. À la reprise, il rejette finalement ces exceptions et ordonne la poursuite du dossier. L'avocat des prévenus, maître Olivier Guara, se réjouit de la décision du tribunal.
Nous avons estimé que le tribunal n'était pas compétent parce que les faits en question se sont déroulés à Doba. Malgré l'arrêt de dessaisissement de la Cour suprême, nous avons estimé tout simplement que la Cour suprême avait saisi la Cour d'appel de N'Djamena. Donc, si c'est mentionné que c'est la Cour d'appel qui doit connaître l'affaire, nous étions un peu surpris de voir que c'est plutôt le tribunal. Donc, souverainement, les juges ont estimé tout simplement que notre réception n'était pas recevable. Tant mieux, nous allons aller au fond du dossier.
Maître Alain Kagon, mais l'un des avocats de la partie civile se dit déçu de la décision du tribunal de prendre le dossier.
J'ai l'impression que le dossier est en train d'être traité avec beaucoup de légèreté parce que le fait de tirer en direction d'une personne, ce n'est pas des fleurs qu'on a jetées, c'est des balles dont le contact avec un homme est mortel et puis la séquestration suivie d'enlèvement parce que des gens qui ont été libérés et des hommes sont venus en armes les enlever, ce n'est pas correctionnel. Donc cette affaire-là ne peut pas être connue par le tribunal correctionnel. C'est un dossier d'instruction, on doit prendre tout le temps nécessaire pour instruire le dossier. Le compagène de Mbaye Boukoum qui est parti les arrêter, qui a pris 45 bœufs avec eux, qui a pris 2 motos, lui aussi pour extorsion de biens, il n'est pas dans l'état.
Le président du tribunal ordonne le maintien en détention des prévenus à la maison d'arrêt et renvoie le dossier au mardi 26 juin prochain pour les plaidoiries du fond. Aban.
C'était un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Alors que le monde célèbre ce 26 juin la journée internationale de lutte contre la drogue, on observe sur le continent africain une augmentation du trafic et de la consommation de drogues illicites. Un phénomène récent qui inquiète le plus, c'est l'explosion de la consommation de tramadol qui rend accro et qui touche désormais les étudiants en Afrique. À votre avis, faut-il retirer le tramadol des rayons de pharmacie? Quelles sont les solutions pour remédier à la dépendance aux drogues? Raïssa Girondin en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
En Côte d'Ivoire, le 2e forum international du logement social économique s'est ouvert lundi à Abidjan autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique ». Cette rencontre se poursuit jusqu'à mercredi. Pour nous en parler, notre correspondant dans la capitale, Georges Ibrahim Tunkara.
Relever les défis du logement en Afrique, c'est le thème de cette deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing, un forum qui réunit les professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Il s'agit notamment des promoteurs immobiliers, des architectes, des urbanistes, des géomètres, des institutions financières et autres fabricants de matériaux. Sur les enjeux de ce forum, les explications de Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Nous allons travailler durant 3 jours sur la problématique liée à toute la chaîne de production de logements, le foncier, le financement, la fiscalité, la formation des jeunes. La volonté politique est là. Il appartient aux opérateurs économiques privés de se faire accompagner par l'État et de produire des logements en masse pour loger, évidemment, le maximum, en tout cas, d'Ivoiriens.
Les participants venus de plusieurs pays, dont la Turquie, l'Espagne, l'Égypte, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce forum est une belle opportunité d'échange. On écoute ce participant béninois.
La décision du gouvernement d'imposer aux certaines structures bancaires d'octroyer des crédits à un taux de remboursement de 5% pour pouvoir faciliter l'acquisition des logements en Côte d'Ivoire. C'est de très belles innovations. La réalité ivoirienne est tout à fait différente de la réalité béninoise. La Côte d'Ivoire a pris le devant sur le Bénin. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont très actifs, alors qu'au Bénin, c'est encore inactif.
Pour cet autre participant ivoirien, le géobéton peut être une solution à la problématique du logement social en Afrique.
Nous devons construire des logements sociaux, mais pour pouvoir construire, il faut des matériaux de qualité. Nous avons, au niveau du laboratoire, depuis des années, mis en œuvre le géobéton. Certainement, le géobéton pourrait être une solution pour rendre les coûts abordables aux économiquement faibles.
Les logements sociaux, une réponse aux quartiers précaires et aux phénomènes des inondations, selon Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Vous comprenez bien que ceux qui sont dans les quartiers précaires, c'est ceux évidemment qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la capacité financière d'avoir un logement. C'est pourquoi nous encourageons évidemment le processus du lancement du programme de logements sociaux pour pouvoir reloger tout cela, afin que tout Ivoirien puisse avoir un toit.
Avec plus de 5 millions d'habitants, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, fait face depuis quelques années à un grand déficit en logement. Georges Brentounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Algérie a expulsé plus de 10 000 migrants africains depuis le début de l'année. Certains sont abandonnés dans le désert, près de la frontière avec le Niger. Idrissa Fall fait le point avec Giuseppe Lopez, le représentant de l'OIM au Niger.
L'OIM au Niger a remarqué une augmentation sur la route de l'Algérie, venant de l'Algérie, mais aussi vers l'Algérie, des migrants en transit. Donc depuis septembre 2017, environ 10 000 personnes de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été retrouvées dans le désert, sauvées par des missions de sauvetage de l'OIM avec le gouvernement du Niger. Tout le monde est arrivé en conditions très difficiles parce qu'ils ont marché dans le désert déhydratés et en conditions psychologiques très préoccupantes.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est parce qu'ils ont été expulsés par l'Algérie ou bien ils se sont perdus eux-mêmes dans le désert?
Il y a 3 différentes situations. Le cas plus fréquent, ce sont les migrants qui ont été abandonnés dans le désert par les autorités algériennes. C'est ça l'histoire que la majorité des migrants nous ont raconté. Ils étaient dans les chantiers en Algérie ou bien dans les différentes villes d'Algérie. Et à un moment donné, ils ont été transportés vers la frontière du Niger et déposés à environ 15 kilomètres de la frontière et après ils ont marché vers le Niger. La deuxième situation sont des migrants qui étaient en transit vers l'Algérie et qui ont été stoppés juste après la frontière. Et il y a un troisième cas, des migrants qui étaient même en Libye et qui sont rentrés au Niger à travers l'Algérie. Ils ont payé des transporteurs pour rentrer au Niger vu l'impossibilité de de traverser la Méditerranée et de rester soit en Algérie ou dans les autres pays.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là qui sont ramenées au Niger?
Depuis le début de l'année, l'OIM a facilité des retours volontaires d'environ 9300 personnes. Donc, elles sont rentrées déjà dans leur pays d'origine. On a bien travaillé avec les services consulaires de toutes les ambassades. Ce sont des projets qui sont financés par les fonds fiduciaires de l'Union européenne et certains pays membres de l'Union européenne aussi. Et il y a encore environ 1000 migrants qui sont avec nous à ce moment. Dans les différents centres de l'OIM au Niger, il y a 6, donc 3 dans la région d'Agadez et 3 à Niamey. Pour les migrants qui sont avec nous en ce moment, on est en train de suivre toute la procédure pour faciliter le retour sur base volontaire. Mais il y a aussi des cas de protection qui doivent rester un peu plus ici au Niger. Victimes de traite, mineurs non accompagnés et migrants qui sont malades ou qui ne sont pas en condition de voyager à ce moment.
C'était le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger, Giuseppe Loprese.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée le 8 mai dernier est en phase de stabilisation selon les autorités. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces derniers jours. Le point avec notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lyndon.
Pour le gouvernement congolais, la situation semble se stabiliser quant à l'épidémie d'Ebola. En effet, aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 2 semaines, selon le titulaire de la santé à Kinshasa.
Le 6 juin, nous n'avons pas eu de nouveau cas confirmé. Donc ça, c'est une situation qui est très bonne. Et alors, par ailleurs, en fait, nous avons eu au total 38 cas confirmés. 18 décès probables, nous avons eu 28 décès au total et parmi ces décès, donc nous avons eu 14 décès parmi les cas confirmés.
Ces résultats sont le fruit des efforts consentis à la fois par les autorités de Kinshasa et les partenaires internationaux. Ils sont aussi le fait de l'introduction dans la lutte contre l'épidémie d'un vaccin expérimental dont le rôle s'est avéré crucial.
Le vaccin nous a permis en fait de casser très rapidement la chaîne de transmission, surtout en vaccinant les contacts et les contacts des contacts, nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission.
Malgré ces résultats, des questions demeurent sur ce vaccin, notamment sur ses possibles effets secondaires. Toutefois, les autorités rassurent.
Nous n'avons pas observé d'énormes effets secondaires majeurs par rapport à ce vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné et donc je n'ai pas eu d'effets secondaires majeurs.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola en RDC. Le pays semble avoir acquis une expérience aujourd'hui reconnue dans la gestion de telles épidémies.
L'élément le plus important, c'est d'avoir un nombre limité d'agents sur le terrain qui agissent, qui collaborent sous le leadership du gouvernement. C'est vraiment l'élément le plus important parce que lorsqu'on a beaucoup d'agences sur le terrain et qu'il n'y a pas de coordination, il y a vraiment le risque d'avoir un chaos sur le terrain.
Pour le moment, le chaos semble avoir été évité, en particulier ici à Kinshasa où beaucoup craignaient qu'Ebola n'arrive et se propage. John Lyndon, VOA Afrique, Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. En appelant au 001-202-205-2633, c'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. On revient d'ailleurs sur l'actualité du jour avec Henri Francisque. Très bonne soirée à tous.